Vous écoutez France Culture.
Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. On est ensemble jusqu'à 11h.
Hey, you know what?
Cette émission tente tous les jours de réconcilier imitation et improvisation en compagnie de Geneviève Méric, Tristan Grenassia, Pauline Darvet, Géraldine Mosna-Savoie, Quentin Molinier et Walter Galvani. L'expression musicale spontanée est assurée cette semaine par Midia Portis-Guérin à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son naturelle, Bruno Gagnère-Fontanille. À 10h50, François Nudelman viendra interpréter pour vous son journal de la philosophie. En compagnie aujourd'hui de Jean-Pierre Lefebvre, tous les deux incarneront un dialogue autour de l'homme Moïse et la religion monothéiste de Sigmund Freud, paru en Point Seuil.
All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts.
Cette semaine, c'est de l'homme qu'il sera question, de l'homme tel qu'il se regarde et tel qu'il se donne à voir sur le théâtre du monde. Réfléchir sur le rôle du comédien, c'est se demander pourquoi l'homme joue, et au fond, s'il n'a jamais fait autre chose que jouer. Retirer la scène, les spectateurs, le texte, il reste l'homme, la société, le langage, l'homme qui ne peut être que s'il pense, qui ne peut penser que s'il parle, et qui ne parle que parce qu'on le regarde.
Putain, qu'est-ce qu'on est mal assis. Je sais pas qu'on ait bouffé, on revient à la fin, on lui dit que c'est très bien, puis...
Oh non, Jean-Jacques. Oh non, ça c'est vraiment pas gentil, on est là maintenant.
Sur scène, l'homme fait l'épreuve de la multiplicité de soi. Il interprète, représente, donne à voir, à sentir, à éprouver, tout en éprouvant lui-même la plasticité de son être, qui peut donner corps à d'autres que lui. Sur scène, l'homme n'est pas tout à fait soi, car il est plusieurs soi. Et son corps tout entier semble poser la question « Qui est moi ? Celui qui joue ou celui qui est joué ?» Ou comme l'écrit Diderot, « Où est le jeu ? Dans le moi de nature ou dans le moi d'imitation ?» Le cœur qu'on se suppose n'est pas celui qu'on a. Demain, avec Hélène Valmarie, nous passerons de la scène à l'écran pour réfléchir au métier d'acteur de cinéma, de Stanislavski à l'Actor Studio. Mercredi, Sabine Chaouch nous contera l'art du comédien à l'âge classique. Et jeudi, Florence Dupont remontera aux origines du théâtre en nous livrant une lecture originale et subversive de la poétique d'Aristote. Mais aujourd'hui, c'est de la puissance du théâtre qu'il va être question, des effets qu'il induit, néfastes ou bénéfiques, et de ce qu'il reste de l'homme lorsqu'il est conçu à travers le prisme du jeu. Rousseau contre Diderot, le théâtre est-il dangereux? Pour répondre à cette question, avec nous en studio, Marc Buffa, spécialiste de littérature française du XVIIIe siècle.
Je n'ai jamais ouï de vers si bien tournés.
Morbleu !
Vous me flattez ! Et vous croyez peut-être ?
Non, je ne flatte point.
Et que fais-tu donc, traître ?
Mais, pour vous, vous savez quelle est notre traite, et parlez-moi, je vous prie, avec sincérité.
Monsieur, cette matière est toujours délicate, et sur le bel esprit, nous aimons qu'on nous flatte. Mais un jour, à quelqu'un, dont je tairai le nom, je disais, en voyant des vers de sa façon, qu'il faut qu'un galant homme ait toujours grand empire sur les démangeaisons qui nous prennent d'écrire, qu'il doit tenir la bride aux grands empressements qu'on a de faire éclat de tels amusements, et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages, on s'expose à jouer de mauvais personnages.
Est-ce que vous voulez me déclarer par là que j'ai tort de vouloir...
Je ne dis pas cela, mais je lui disais, moi, qu'un froid écrit assomme, qu'il ne faut que ce faible à décrier un homme, et qu'eût-on d'autre part sans belle qualité, on regarde les gens par leur méchant côté.
Est-ce qu'à mon sonnet, vous trouvez hardi ?
Je ne dis pas cela, mais pour ne point écrire, je lui mettais aux yeux, comme dans notre temps, cette soif agatée de fort honnêtes gens.
Est-ce que j'écris mal ? Et leur ressemblerais-je ?
Je ne dis pas cela, mais enfin, lui disais-je, quel besoin si pressant avez-vous de rimer ?
Voilà qui va fort bien, et je crois vous entendre. Mais ne puis-je savoir ce que, dans mon sonnet...
Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Vous vous êtes réglé sur de méchants modèles, et vos expressions ne sont point naturelles. Ce style figuré dont on fait vanité sort du bon caractère et de la vérité. Ce n'est que jeu de mots qu'affectation pure, et ce n'est point ainsi que parle la nature.
Je connais un ami, il s'appelle Alceste. C'est son nom, Alceste. Nous, on l'appelle Zanthrope, c'est notre ami Zanthrope. Bonjour, la Misanthrope. Quand il est à Saint-Trope, il vit comme un ascète. Ils sont jamais là-bas, mais quand il est à Saint-Trope, il vit comme à Saint-Trope. Toute la nuit, il sort, il fait le tour des bois, tout l'on boite et l'on danse. Il y en a plusieurs à cette, il cherche Célimène, sa doudou fiancée. A vu Célimène, pas là, à la fin, il a tout vu, il lui dit ce qu'il pense. N'est pas content, tu sais, il dit fuyons ces boîtes de lait condensé. Ah, parce que c'est son mot, ça. Parce que lui, il dit que ceux qui dansent.
Bonjour, Marc Buffin.
Bonjour.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance.
Merci de m'avoir invité.
C'est donc avec vous que nous allons commencer cette semaine consacrée aux comédiens et à l'acteur, donc au jeu en général, J-E-U. On va le voir toute cette semaine, une réflexion sur le théâtre est en réalité une réflexion sur l'homme et la façon dont il se donne à voir aux autres et à lui-même. On vient d'entendre un extrait du Misanthrope de Molière. On entendait Alceste, donc le misanthrope, qui avait du mal à dire à Oronte, celui qui se prend pour un poète, que ses sonnets étaient mauvais en réalité. Et donc à plusieurs reprises, Oronte lui dit « Donc vous voulez me dire que mes sonnets ne sont pas bons ?» Et Alceste dit « Je ne dis pas cela, je ne dis pas cela ». Il le dit 4 fois, jusqu'à finalement lui dire « Franchement, ce sonnet, il est bon à mettre au cabinet ». Et Rousseau, dans sa lettre à D'Alembert, qui date de 1757, propose une lecture de cette pièce du misanthrope en faisant le reproche à Molière de proposer un misanthrope de théâtre et non pas un misanthrope réel. Car, dit-il, si Alceste était vraiment misanthrope, il n'aurait aucun scrupule à dire directement à Oronte que ses sonnets étaient à mettre au cabinet.
Tout à fait. Rousseau reproche à Molière d'avoir fait qu'Alceste manque de franchise dans ce passage et dans son propos sur le sonnet. Il pense que Molière aurait dû... a trahi ce que Rousseau appelle le véritable caractère du misanthrope, parce que pour lui, il y a un véritable caractère du misanthrope, une essence du misanthrope. Cela dit, pour Rousseau, avec Molière en général et avec le misanthrope plus particulièrement, le théâtre français a atteint son point de perfection. Rousseau, visiblement, admire Molière, admire le misanthrope. D'ailleurs, il lui consacre un assez long passage dans la lettre à D'Alembert. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de le critiquer. Et que critique-t-il dans le misanthrope ? Eh bien, il critique le fait que Molière ait fait rire d'Alceste, c'est-à-dire ait fait rire de la vertu. Et cela, Rousseau ne le pardonne pas.
En fait, c'est l'essence même de la comédie qu'il critique, puisqu'il dit, qu'il reproche à Molière de ridiculiser la vertu.
Exactement.
Or, c'est le propre du ressort comique de la comédie.
Exactement. C'est bien là. Or, dit Rousseau, le ridicule est l'arme du vice. Il ne peut pas être l'arme de la vertu contre le vice. Le vice se condamne, il ne se ridiculise pas. Par contre, effectivement, on peut très facilement ridiculiser la vertu. Et alors, pourquoi Rousseau se pose la question, mais enfin, pourquoi Molière a-t-il peint le misanthrope ainsi ? Pourquoi a-t-il critiqué Alceste ? A-t-il critiqué le misanthrope ? Dit Rousseau, et c'est une phrase qui revient comme un refrain, une sorte de refrain à la fin de chacun de ses paragraphes, des paragraphes qu'il consacre au misanthrope, c'est qu'il fallait faire rire le parterre. Le parterre ne pouvait rire qu'aux dépens de la, vertu. Et ce qui apparaît à travers cette formule, il fallait faire rire le parterre. D'abord, c'est l'expression « il fallait ». le théâtre n'est pas, le théâtre n'est pas libre. L'auteur dramatique n'est pas libre de composer les pièces comme il l'entend. Il est soumis au goût du public.
Au goût du public, mais également à des règles morales, puisqu'en réalité, c'est ça le reproche que Rousseau fait à Molière, c'est d'avoir, quand il lui reproche de ridiculiser la vertu, c'est donc qu'il lui reproche de tenir un discours qui ne respecte pas certains préceptes moraux.
Absolument, absolument. Mais si le théâtre ne respecte pas ses préceptes moraux, c'est précisément parce qu'il est soumis au goût du public. C'est parce qu'il faut plaire. C'est ça l'impératif auquel est liée l'existence même du théâtre. Le raisonnement de Rousseau est extrêmement simple. Le théâtre ne plaisait plus à ses spectateurs, eh bien les spectateurs ne viendraient plus et il n'y aurait plus de théâtre. Donc le théâtre est d'une certaine façon condamné au plaisir, est obligé de plaire, il ne peut pas, il n'a pas le droit de déplaire, il est contraint à plaire, et en ce sens, contrairement à ce que pensent les philosophes, qui s'imaginent que tantôt l'on peut moraliser, tantôt l'on peut plaire, eh bien non, dit Rousseau, le théâtre est obligé de plaire, il ne peut pas moraliser, parce que moraliser, c'est évidemment, déplaire au public pour essayer de l'amender, de le réformer, de le critiquer, pour le critiquer. Le théâtre n'est pas libre. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'un des maîtres mots de la lettre à d'Alembert, qui revient très fréquemment, c'est l'adverbe « nécessairement », qui indique bien cette obligation qu'a le théâtre de plaire.
Alors, rappelons dans quel contexte la lettre à d'Alembert est écrite. Rousseau répond à un article de l'encyclopédie consacré à la ville de Genève, rédigé par d'Alembert, où d'Alembert en appelle à l'installation d'un théâtre à Genève, dit-il. Voilà. Cela sera pour le bien de la cité en tant que telle, enfin de la ville de Genève. Et Rousseau dit, mais non, au contraire, si l'on fait venir un théâtre à Genève, alors c'en est fini d'une forme d'idéal de la démocratie. Au contraire, on va vers une forme de corruption des mœurs. Il ne voit dans l'installation d'un théâtre, dans la présence de comédiens au sein de cette ville, que le signe d'une dépravation, d'un point de non-retour, d'un point de vue moral.
Absolument. C'est dans le tome 7 de l'encyclopédie, en 1757, que se trouve l'article Genève, qui est signé par d'Alembert. Et à l'intérieur de cet article, il y a un paragraphe dans lequel d'Alembert propose d'introduire le théâtre à Genève. Genève, qui est à l'époque une république indépendante, république calviniste, et où le théâtre est interdit depuis une ordonnance de 1617, une loi somptuaire, c'est-à-dire liée au luxe. Genève est en même temps, disons, une sorte pour les philosophes, une sorte de modèle de civilisation dans laquelle il y a, pour eux du moins, cette poche d'obscurantisme qu'est l'interdiction du théâtre. Et c'est cela que d'Alembert veut essayer de supprimer, ce point d'obscurantisme ce qui est par ailleurs cette magnifique ville de Genève. Et voilà qui indigne absolument, qui à la fois effraie et indigne Rousseau, et c'est pour cela qu'il écrit en réponse à ce paragraphe sa lettre à M. d'Alembert sur les spectacles, qui est publiée en 1758.
8, oui, rédigée en 57 et publiée en 58, c'est ça.
Voilà. Alors, dans cette lettre à d'Alembert, il y a deux types de condamnation du théâtre. D'une part, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, une condamnation concernant le contenu des pièces de théâtre. Et d'autre part, une condamnation liée, quel que soit le contenu des pièces de théâtre, et même en les supposant innocentes, dit Rousseau, il y a une condamnation qui est liée au fait même d'installer un théâtre dans une société, en l'occurrence dans une ville qui est la ville de Genève. Alors, Rousseau est tout de même assez nuancé à ce sujet. son argumentation est la suivante. Le théâtre est un bien dans les villes corrompues, c'est-à-dire pour Rousseau, en général, les grandes villes. Et par contre, il est un mal dans les villes vertueuses. Et évidemment, Genève fait partie de ces cités vertueuses dans lesquelles l'introduction du théâtre ne pourrait être qu'un mal. Alors pourquoi est-ce un bien dans les villes corrompues, par exemple les grandes villes ? L'idée est extrêmement simple. Plutôt que de voler, plutôt que d'aller se battre dans un bouge, eh bien, après tout, il vaut mieux aller perdre son temps au théâtre. Mais quand on a sa vie remplie par des activités productive, intéressante, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller perdre son temps au théâtre. Perdre son temps au théâtre serait absolument néfaste.
Ce qui montre bien que ce qui intéresse Rousseau, c'est l'effet que va produire le théâtre, puisqu'il est tantôt vertueux, tantôt néfaste, selon les villes où le théâtre a lieu. Et donc, en ce sens, on voit que la réflexion de Rousseau prend en compte... oui, c'est ça, se situe du point de vue de l'effet du théâtre, et donc, du coup, ne condamne pas le théâtre en tant que tel. C'est la notion même de perfectibilité chez Rousseau, c'est-à-dire que l'homme peut sans arrêt évoluer vers le bien ou vers le moins bien, mais les choses ne sont pas unilatérales, elles ne vont pas dans une seule direction. Et ça, c'est en ce qui concerne le théâtre. En revanche, en ce qui concerne le comédien, Rousseau écrit « Défendre au comédien d'être vicieux, c'est défendre à l'homme d'être malade », comme s'il était intrinsèquement nécessaire au comédien d'être vicieux. Là, on a une condamnation qui paraît sans appel.
Le comédien est en effet mauvais par nature chez Rousseau. Alors, il rejoint là, au fond, une très ancienne condamnation du métier de comédien. Tout le monde est d'accord au XVIIIe siècle pour reconnaître que les comédiens ont généralement des mœurs dissolues. Mais ce n'est pas exactement de cela dont il s'agit. La condamnation porte sur le statut même de comédien, sur le métier qui consiste à imiter. Et cela depuis Platon. Et c'est cette condamnation-là que reprend Rousseau en des termes, dans la lettre d'Annaber, des termes qui sont d'une grande violence, hein, d'une grande virulence.
Qu'est-ce que le talent du comédien ? L'art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense aussi naturellement que si l'on le pensait réellement, et d'oublier enfin sa propre place à force de prendre celle d'autrui. Qu'est-ce que la profession du comédien ? Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent, se soumet à l'ignominie et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire et met publiquement sa personne en vente. J'adjure tout homme sincère de dire, s'il ne sent pas au fond de son âme, qu'il y a dans ce trafic de soi-même quelque chose de servile et de bas. Vous autres philosophes qui vous prétendez si fort au-dessus des préjugés, ne mourriez-vous pas tous de honte si lâchement travesti en roi, il vous fallait aller faire aux yeux du public un rôle différent du vôtre et exposer vos majestés aux huées de la populace. Quel est donc au fond l'esprit que le comédien reçoit de son état ? Un mélange de bassesse, de fausseté, de ridicule orgueil et d'indigne avilissement qui le rend propre à toutes sortes de personnages, hors le plus noble de tous, celui d'homme qu'il abandonne.
Ce que Rousseau reproche aux comédiens, c'est de faire de son métier un talent, alors il le dit avec ironie, Marc Dufin, qu'il est l'art de se contrefaire. Alors, le fait de se contrefaire, de se donner en représentation en étant autre chose que soi-même, est quelque chose qui est condamné sans appel par Rousseau dans d'autres écrits. Là, en ce sens, sa réflexion sur le théâtre s'inscrit absolument dans sa réflexion philosophique par ailleurs, puisque du coup, le fait de se contrefaire implique la perte d'un rapport transparent à soi. Or, cela, pour Rousseau, ne peut pas être positif. Et c'est en ce sens que le comédien est toujours d'emblée du côté du vice et du négatif.
Tout à fait. L'expression qu'emploie Rousseau, c'est il représente tous les métiers. Enfin, je me souviens plus exactement de l'expression.
Un métier par lequel il se donne en représentation pour de l'argent, se soumet à l'ignominie et aux affronts qu'on achète le droit de lui faire.
Voilà. Il est tout sur scène, excepté un homme. C'est-à-dire, il y a une abdication de la part du comédien de sa propre personnalité qui s'efface derrière les rôles divers qu'il peut représenter. Et dans la mesure où ces rôles sont des rôles de personnages vils, Rousseau considère que le comédien s'avilit. Le comédien, si vous voulez, est soumis, aux directives de l'auteur. Il n'est pas libre. Et par ailleurs, il est aussi soumis au public. Donc, il est doublement servile, si je puis dire. Et tout cela fait qu'il y a une aliénation du comédien qui est liée à l'exercice même de sa profession et qui n'est pas quelque chose de contingent qui viendrait par ailleurs, etc. Par ailleurs, le comédien trompe. Il émet des pensées qui ne sont pas les siennes. Il est donc trompeur. Et à l'objection, lorsque l'on va au théâtre, on sait bien que le comédien joue un rôle et donc qu'il nous trompe, donc il est innocent. Alors Rousseau reconnaît effectivement qu'il y a une innocence de la tromperie du comédien, mais dit-il, il apprend en jouant ses rôles, en trompant sur scène, il apprend à tromper dans la vie et il est très possible qu'ensuite il passe à l'acte, comme on dirait aujourd'hui, dans la réalité.
Mais c'est ça qui est amusant quand même, c'est que le comédien, du coup, il est condamnable en tant que tel, mais surtout, il est condamnable pas pour Rousseau, dans la mesure où il joue des rôles qui eux-mêmes sont des rôles qui sont pervertis. C'est vraiment l'exercice de ce métier qui est néfaste en tant que tel, plus qu'une réflexion abstraite sur le métier. Donc on pourrait très bien penser que si des comédiens jouaient des rôles vertueux, alors il n'y aurait pas de problème, puisque cela les habituerait à exercer, à être vertueux dans la vie.
Oui, il n'y a pas simplement l'idée de rôle de personnage vicieux ou de personnage perverti. C'est le fait même de jouer un rôle qui est incriminé, quel que soit le personnage représenté. Fait même de jouer un rôle parce que dans le fait de jouer un rôle, il y a à la fois une aliénation et une tromperie. Par exemple, l'exemple que donne Rousseau, dans une édition ultérieure, d'ailleurs, il retirera cet exemple, c'est celui d'un personnage qui, sur scène, joue des rôles de voleur. Qu'est-ce qui nous garantit, dit-il, que dans la vie, il ne va pas se mettre à voler ayant pris l'habitude ou acquis les techniques du vol ou les comportements du vol sur scène. Et ce qui est très frappant, c'est cette contamination de la réalité par l'imitation. Il me semble que l'on est dans une tradition platonicienne, au fond, dans une tradition platonicienne où la mimésis, l'imitation, passe dans la réalité. Il y a une contagion, une contamination du réel par l'imitation, et on est aux antipodes pour l'Antiquité d'Aristote, bien sûr, et pour le XVIIIe siècle de Diderot.
Et en effet, on est aux antipodes d'Aristote. Rousseau lui-même condamne dans sa lettre à D'Alembert. Il diminue le rôle que l'on fait jouer à la catharsis.
Absolument,
il dit que la catharsis, c'est-à-dire le fait d'aller au théâtre, en gros, pour se purger de ses passions, pleurer de toutes ses larmes et crier toute la détresse du monde qui nous est donné à voir, comme pour ensuite être plus disponible au monde qui nous entoure et à une activité, disons, politique. Rousseau dit, mais non, parce que c'est le fait de vivre ça au théâtre ne nous empêche pas du tout de ne pas le vivre dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'en fait, il abolit la distinction entre le théâtre d'un côté et la vie réelle de l'autre. Et c'est pour ça que pour lui, le théâtre est si dangereux en réalité.
Tout à fait. S'agissant du comédien, effectivement, dans son... je trouve, pour vous dire honnêtement ma pensée, que les paragraphes qui sont consacrés aux comédiens sont assez confus. Mais précisément parce qu'il y a perpétuellement, me semble-t-il, une confusion entre le rôle et la réalité de l'individu. Mais pour en revenir à la catharsis, il y a une formule assez drôle dans la lettre d'Alembert, dont je me souviens mal, serait-ce que pour devenir continent et sage, il faut commencer par être furieux et fou. Puisque c'est cela la théorie de la catharsis telle qu'elle est, disons, telle qu'elle est caricaturée par Rousseau. On est dans une tradition qui est celle de la contamination du réel par le spectacle. Rousseau pense que le théâtre est voué à représenter les passions. C'est son objet. Il ne peut que représenter les passions. Et ces passions, les expressions qu'il emploie sont le théâtre flatte les passions, donne une nouvelle énergie à toutes les passions, embellit les passions. Enfin, je cite de mémoire, je ne me souviens plus exactement. Autrement dit, la représentation théâtrale a pour effet d'annihiler la résistance que le spectateur peut opposer à ses passions. Le théâtre est donc libérateur des passions. Et c'est en cela qu'il est condamnable. Libérateur des passions, c'est-à-dire destructeur de la vertu, puisque la vertu, c'est par définition chez Rousseau, enfin pour Rousseau, et puis pas seulement pour lui sans doute, la capacité de résister aux passions, la capacité de surmonter ses passions.
Mais est-ce qu'on ne peut pas faire le reproche à Rousseau de ne pas savoir prendre en compte sérieusement la notion même de « je » J-E-U.
Absolument.
Puisque
absolument.
Si on pense à, par exemple à Diderot qui écrira plus tard un texte, Le paradoxe du comédien, dont on va parler dans un instant, où Diderot propose vraiment une réflexion sur le jeu de l'acteur et montre en quoi consiste la technique de jeu, comment il faut faire pour incarner un personnage, de manière à non seulement vivre intérieurement ce que le personnage vit réellement, mais aussi le donner à voir au public en tant que tel, au spectateur en tant que tel. Chez Rousseau, on a l'impression qu'il n'est pas sensible à cette idée même de jeu où les gens savent que nous sommes dans l'illusion, mais dans une illusion qui est lucide d'elle-même en réalité. Et donc, si bien que, comme il ne peut pas faire cette place dans sa pensée à la notion de jeu, il rate la spécificité même du comédien.
Tout à fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand il se fait remarquer à lui-même que la tromperie du comédien est innocente, c'est-à-dire que tout le monde sait bien que l'on est au théâtre, qu'il s'agit d'une fiction, qu'il s'agit d'un jeu et non pas d'une réalité, il est tout de même un peu embarrassé pour répondre à l'objection. Donc, il méconnaît. On a le sentiment que vraiment il n'y a pas de différence entre le théâtre et
Oui, c'est ça, parce qu'il plaque sur le théâtre ses réflexions morales. Enfin, il les plaque de manière plus subtile que ce que je laisse entendre. Mais quand même, il faut pour pouvoir réfléchir à la spécificité du théâtre et du comédien, avoir un minimum de détachement et de recul nécessaire, de recul vis-à-vis de la morale. Si la morale elle-même se répand dans toutes les sphères de la vie, alors on ne peut même plus penser un intérêt autre que moral dans toutes les choses. Et donc, par rapport au théâtre, forcément, le théâtre est condamnable, puisque si on le considère qu'à travers un prisme moral, alors il est par essence corruptible. Et c'est en cela que sa réflexion peut être biaisée vis-à-vis du théâtre.
Oui, bien sûr. Disons, au XVIIIe siècle, la question de la morale est une question tout à fait primordiale au théâtre. Les conflits entre Rousseau d'un côté et les philosophes de l'autre, entre, disons, les antiphilosophes d'un côté et les philosophes, ont pour objet la question de la moralité au théâtre. Le théâtre est-il susceptible ou non d'être moral? Est-il susceptible d'améliorer moralement l'homme? C'est sur cet axe qu'ils se situent et les uns et les autres. Et il y a, me semble-t-il, une méconnaissance. Vous parliez de jeu, je ne sais pas si les deux notions sont liées, mais il y a une méconnaissance quand même du plaisir du théâtre. Même si par ailleurs, chez Rousseau, on sent très nettement qu'il y a un très évident plaisir du théâtre. Cela ne compte pas.
Tu me joues la comédie comme tu joues sur ton piano. Tu me joues tes mélodies
nostalgie de tes rêves à demi-mot.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance, il est 10h30 et nous parlons de théâtre toute cette semaine, ou plus précisément du comédien et de l'acteur. Et aujourd'hui, en particulier des textes que Rousseau et Diderot ont chacun consacrés au théâtre, La lettre à D'Alembert de Rousseau et Le paradoxe du comédien de Diderot en compagnie de Marc Buffa.
Jouer ta comédie, jouer sur ton piano, jouer avec la vie, mais je joue faux. Tu me joues la comédie.
Jouer la comédie, justement, c'est peut-être cette dimension-là du jeu que Rousseau n'a pas su saisir, la dimension plastique du jeu qui fait que l'on peut prendre des distances par rapport à cette détermination et des réflexions morales et donc mettre en œuvre une plasticité de soi. Et en revanche, c'est exactement ce qu'a saisi Diderot dans un texte ultérieur, hein, La lettre à D'Alembert, un texte qui date plutôt des années 1770, intitulé Le paradoxe sur le comédien, où il montre bien que le comédien est précisément celui qui arrive à prendre de la distance vis-à-vis de son être sensible, Marc Buffa.
Oui, effectivement, le comédien est double et il y a une formule qui me revient. C'est à propos de la grande comédienne du XVIIIe siècle, la Clairon, qui jouait notamment, entre autres, les tragédies de Voltaire. En ce moment, dit Diderot, elle est double, la petite Clairon et la grande Agrippine. Voilà un dédoublement du comédien que Rousseau ne comprendrait probablement pas. Oui, moi, s'agissant du paradoxe sur le comédien, qui est le texte dont vous me parliez, je voudrais indiquer deux choses. Il me semble qu'il y a deux points importants que je voudrais souligner. Le premier, c'est un point, disons, dérivé, mais néanmoins important, qui est tout de même la réhabilitation du comédien. La réhabilitation du comédien à une époque où il est très largement... il y a d'abord les mœurs dissolues, goût de parure, de dissipation, de libertinage, comme dit D'Alembert dans l'article Genève, la vie dissolue des comédiens, mais ce n'est pas cela qui est en cause. Il y a une condamnation de l'Église, les comédiens sont excommuniés, ils sont frappés d'infamie civile. C'est-à-dire, c'est une condamnation qui existait dans l'ancienne jurisprudence, qui était suscitée par le déshonneur public. Alors, le déshonneur public, c'est de jouer la comédie, c'est de monter sur scène. Face à cela, Diderot va réhabiliter le comédien. Parce que pour lui, le comédien est un grand homme. L'expression est malheureuse parce qu'il y a beaucoup de grandes femmes, si l'on peut dire, qui sont comédiennes. La grande comédienne de l'époque, c'est tout de même la Clairon, mais enfin, elle n'est pas la seule. Mais enfin, l'idée, c'est que le comédien est ce que Diderot appelle un grand imitateur de nature, et un grand artiste, si vous voulez. Et à cet égard, il est l'égal du peintre, du sculpteur, du poète, dit Diderot, et même parfois le poète, c'est-à-dire c'est l'écrivain à l'époque, et même parfois supérieur au poète. Le comédien est un grand créateur. D'ailleurs, les textes de Diderot sur le théâtre lui assignent une fonction créatrice. Le poète, si je puis dire, c'est le poète, c'est-à-dire le poète dramatique, le dramaturge, ne suffit pas. Il y faut le comédien qui vient accomplir l'espèce de canevas qu'est pour Diderot le texte de théâtre. Face à ce qu'est la situation sociologique, la situation sociale du comédien, Diderot propose au fond de lui donner une éducation comme on en donne à tout citoyen qui veut devenir juge, magistrat, administrateur, etc. Il s'agit de considérer la profession de comédien comme une autre profession qui a la même valeur, sinon plus de valeur que des professions comme celle de juge ou de magistrat.
Mais alors, il faut bien inscrire du coup ce texte du paradoxe sur le comédien à deux niveaux différents. D'abord, dans la dimension qui est celle de l'encyclopédie. Rappelons-le quand même que Diderot et donc d'Alembert, à qui répond Rousseau, sont à l'origine du projet de l'encyclopédie qui a pour but, hein, dit Diderot, d'essayer de rassembler toutes les connaissances éparses sur la Terre. Mmh. Rien de moins, donc dans un élan de synthèse absolue de toutes les connaissances possibles. Et donc, il est étonnant de voir une telle place accordée aux comédiens dans cette entreprise de connaissances absolue, puisqu'il peut paraître que le comédien ne soit qu'une dimension mineure de l'homme. Or, le fait de l'investir d'une telle importance et d'écrire, de lui accorder un texte en tant que tel, montre qu'il n'en est rien, qu'en réalité, le réfléchir sur le comédien revient à réfléchir sur l'homme. Et une deuxième dimension qu'il faut soulever, et d'ailleurs j'aimerais avoir votre avis là-dessus, Marc Buffat, est-ce qu'on peut lire le paradoxe sur le comédien comme une réponse de Diderot à la lettre à d'Alembert de Rousseau, qu'il a lu nécessairement ? Peut-on concevoir ces deux textes comme étant en dialogue ?
Réponse au sens où il répondrait explicitement, si vous voulez, en une sorte de seconde lettre à Rousseau, sans doute pas. Le paradoxe, c'est un texte dont la rédaction s'étale pratiquement des années 70, un peu après l'année 73, jusque pratiquement à la fin de la vie de Diderot. Il y a constamment apporté des modifications. Par contre, que les deux textes soient, sinon en dialogue, en tout cas en opposition, et que Diderot, en écrivant, ait pensé à Rousseau, très certainement. Pourquoi ? Eh bien, parce que la thèse est celle que l'on appelle la thèse de l'insensibilité du comédien. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que le comédien n'éprouve pas, ne vit pas les sentiments qu'il représente sur le théâtre, mais au contraire les imite. Je ne me souviens plus, ce que la passion vécue n'a pu exécuter, dit-il, la passion bien imitée l'exécute, ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de la formule exactement. Le comédien est un grand imitateur de nature, et de là le thème de la froideur du comédien, le thème de l'insensibilité, car pour saisir la nuance exacte d'un ton, d'un accent, il faut absolument, à ce moment-là, être de sang-froid, hein, avoir toute son attention concentrée sur ce que l'on essaie d'imiter.
C'est en cela que le paradoxe est double. On a d'abord le paradoxe sur le comédien, c'est le paradoxe étymologiquement, c'est aller contre la doxa, contre l'opinion. Voilà. C'est donc apporter une vérité sur un discours ambiant qui est le fruit de l'opinion, donc sur le comédien. Mais par ailleurs, le paradoxe vient du fait que, pour Diderot, le comédien sera d'autant meilleur qu'il arrivera à se détacher de sa sensibilité. On fait généralement du jeu le produit d'une sensibilité, d'une forme d'empathie qui nous permettrait de nous glisser dans la peau de différents personnages. Pas du tout, nous dit Diderot, il faut avoir une certaine froideur, un détachement vis-à-vis de notre sensibilité pour pouvoir incarner le plus de personnages possible. Et c'est en ce sens qu'on atteint la plasticité nécessaire à tout comédien.
Exactement. L'insensibilité, la froideur du comédien, le dédoublement, autrement dit, sont nécessaires pour obtenir le maximum d'effet sur le spectateur. Plus le comédien est froid, plus le spectateur est ému. Et à l'inverse, si j'ai des comédiens qui jouent dame, comme dit Diderot, il y a une comédienne célèbre de l'époque qui jouait ainsi, sans préparation, sans travail, parce qu'il y a aussi le travail du comédien dans cette froideur, c'était Mademoiselle Duménil. Eh bien, à ce moment-là, il sera inégal. Il ne pourra pas tenir toute la suite des représentations. Mais je pense que ce qui est sous-jacent à cette idée, c'est que tout de même, le spectacle d'un comédien sensible sur scène n'aura aucun effet sur son spectateur.
C'est l'extrême sensibilité qui fait les acteurs médiocres. C'est la sensibilité médiocre qui fait la multitude des mauvais acteurs. Et c'est le manque absolu de sensibilité qui prépare les acteurs sublimes.
Thank you.
Avant de dire « Zahir, vous pleurez » ou « Vous y serez, ma fille », l'acteur s'est longtemps écouté lui-même. C'est qu'il s'écoute au moment où il vous trouble et que tout son talent consiste non pas à sentir, comme vous le supposez, mais à rendre si scrupuleusement les signes extérieurs du sentiment que vous vous y trompiez. Les cris de sa douleur sont notés dans son oreille. Les gestes de son désespoir sont de mémoire et ont été préparés devant une glace. Il sait le moment précis où il tirera son mouchoir et où les larmes couleront. Attendez-les à ce mot, à cette syllabe, ni plus tôt, ni plus tard. Ce tremblement de la voix, ces mots suspendus, ces sons étouffés ou traînés, ce frémissement des membres, ce vacillement des genoux, ces évanouissements, ces fureurs, pure imitation. Le son recordé d'avance, grimace pathétique, singerie sublime dont l'acteur garde le souvenir longtemps après l'avoir étudié, dont il avait la conscience présente au moment où il l'exécutait, qui lui laisse, heureusement pour le poète, pour le spectateur et pour lui, toute la liberté de son esprit, et qui ne lui ôte, ainsi que les autres exercices, que la force du corps. L'acteur est là et vous êtes triste. C'est qu'il s'est démené sans rien sentir et que vous avez senti sans vous démener. S'il en était autrement, la condition du comédien serait la plus malheureuse des conditions. Mais il n'est pas le personnage. Il le joue et le joue si bien que vous le prenez pour tel. L'illusion n'est que pour vous. Il sait bien, lui, qu'il ne l'est pas.
Marc Buffa, lorsque Diderot fait du manque absolu de sensibilité la condition même d'un acteur sublime, dit-il, on est là dans un dualisme absolu, c'est-à-dire que cette remarque implique une distinction très forte entre un esprit qui serait vecteur de liberté, qui nous permettrait de travailler sur nous-mêmes en tant qu'acteur, donc en tant qu'homme, et de l'autre, un corps qui serait conçu comme un ancrage sensible, donc vécu comme une forme de contrainte, de laquelle il s'agirait de s'affranchir de manière à pouvoir jouer d'autres rôles. Donc on a là, derrière la réflexion sur l'acteur, une conception très claire et très, il me semble, très identifiable, hein, de la relation entre le corps et l'esprit.
Sauf que, si vous voulez, vous parlez de dualisme, ce dualisme, si je puis dire, cette indépendance de l'esprit par rapport au corps qui fait que le comédien est débarrassé de toute sensibilité, s'obtient à la suite d'un long travail. Il y a, au fond, s'agissant du comédien, toute une ascèse qui est évoquée par Diderot, et il y a des expressions comme abnégation de soi, séparation d'avec soi, qui indiquent bien que tout cela n'est pas donné et qu'il est nécessaire de travailler longtemps, régulièrement, pour parvenir à cet état, disons, de dissociation qui caractérise, et de dédoublement qui caractérise le grand comédien. Moi, ce qui me frappe dans le texte qui vient d'être lu, c'est tout de même qu'il confronte, qu'il superpose, pourrait-on dire, le comédien et le spectateur. D'un côté, la froideur du comédien et l'émotion ressentie par le spectateur. Il est là et vous triste. Hein. Il y a là un contraste entre ces deux choses. Et derrière, ce qui transparaît à travers la description que Diderot donne de l'acteur, c'est un système théâtral, j'entends système théâtral, je veux dire scène et salle, un ensemble scène et salle, où toute toute la froideur est passée du côté de la scène et toute l'émotion, toute la sensibilité du côté de la salle. Et on a vraiment affaire à un système, on a l'impression en tout cas d'avoir affaire à un système de vase communicant où plus la froideur monte d'un côté, plus l'émotion monte de l'autre et inversement, plus le comédien est sensible, eh bien, moins le spectateur l'est, comme s'il se répartissait sensibilité et froideur. Et lorsque la froideur est à son comble sur la scène, eh bien, l'émotion est à son comble dans la salle.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que, selon Diderot, le comédien, un comédien par excellence, serait celui qui n'aurait aucun caractère propre ?
C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, c'est-à-dire
donc
que
il faudrait avoir une absence de personnalité pour mieux incarner d'autres personnages.
Voilà, enfin, c'est ce qu'il dit. L'absence de sensibilité, la froideur ne doit intervenir que lorsque le comédien joue, que lorsqu'il est sur scène, hein, que lorsqu'il fait son métier. Mais enfin, dit Diderot, si l'on n'est pas trop sensible dans la vie, eh bien, ça aide. Hein, enfin, j'exprime ça de façon un peu familière, mais c'est vraiment l'idée. Donc, il constate que beaucoup de comédiens sont insensibles ou ont une sensibilité relativement modérée. Ils n'ont pas, et on ne sait pas vraiment qui ils sont, effectivement. Ils n'ont pas véritablement d'identité non plus. En tout cas, pas d'identité affirmée. Et ceci facilite le fait qu'ils soient amenés à jouer des rôles extrêmement différents.
Mais lorsque Diderot écrit cela, il sait exactement ce qu'il fait, puisqu'il s'inscrit quand même dans toute une tradition philosophique de réflexion sur le sujet, sur un sujet unifié, un sujet qui serait un. Et en montrant la plasticité du comédien, il rompt avec cette tradition-là. Il montre que peut-être que le sujet en tant que tel n'est pas si facilement assignable.
Tout à fait. D'ailleurs, il a cette formule. Il est s'agissant du comédien, mais enfin, on peut largement l'étendre à d'autres personnes. Il est à la fois, dit l'un des deux interlocuteurs, je ne me rappelle plus lequel, il est à la fois tout et rien. Et son interlocuteur réplique, oui, et peut-être est-ce que parce qu'il n'est rien qu'il est tout, quelque chose comme ça. Il y a donc effectivement l'idée d'une plasticité des individus, d'une plasticité psychique, si vous voulez, qui fait que le comédien peut endosser des rôles extrêmement divers, mais sans pour autant être aliéné, sans pour autant être aliéné à ces rôles, hein, en demeurant distinct de ce qu'il représente. C'est le dédoublement à propos de la Clairon que j'évoquais tout à l'heure. Elle est double, la petite Clairon et la grande Agrippine.
Ah, j'ai trop bouffé, moi. Je bouffe pas ce soir. Je mange une pomme et je me couche.
Une pomme si tu veux, que ça m'étonnerait beaucoup. Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel. Je suis obligé de venir, moi.
C'est ta nièce, elle sait qu'on vient, on lui a dit.
Pourquoi on lui a dit ça? Putain, qu'est-ce qu'on va foutre au théâtre?
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous la bantez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois tours retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens.
Merci beaucoup, Marc Buffat, d'être venu nous parler de Rousseau et de Diderot aujourd'hui pour ouvrir cette semaine consacrée aux comédiens et aux acteurs. Je renvoie les auditeurs à l'édition que vous proposez de la lettre à d'Alembert de Rousseau en Garnier Flammarion. Également un ouvrage que vous avez dirigé, peut-être digéré aussi, Diderot, l'invention du drame, qu'on trouve aux éditions Klinksic.
J'ai du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Viens voir les comédiens.
Viens voir les comédiens et les philosophes qui s'amusent. Il est 10h49 et quelques secondes. Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance. Et c'est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec vous, François Nodelman. Bonjour.
Bonjour Adèle. Et oui, on entend là un petit peu le jingle, c'est normal. Le dernier livre qu'a écrit Freud en 1939 est surprenant. Consacré à la figure de Moïse, il déplace la psychanalyse sur le terrain de l'anthropologie et surtout, il reconstruit l'histoire de cet ancêtre juif pour en faire un Égyptien. Jean-Pierre Lefebvre propose une nouvelle traduction de ce texte célèbre, « L'homme Moïse et la religion monothéiste », c'est paru en poche aux éditions Point. Bonjour Jean-Pierre Lefebvre.
Bonjour.
Alors, c'est effectivement étonnant de voir Freud complètement remettre en question ce récit religieux. On pensait que Moïse venait de la tribu de Lévi. Eh bien, non, nous dit Freud.
Il dit non, effectivement, et avec une certaine force. Hein, c'est ce que j'essaie de commenter dans sa manière de dire non. Enfin, il dit quelque chose comme Moïse, deux points, un Égyptien. Hein, il essaie d'enfoncer cette vérité qui, pour beaucoup de lecteurs, sonnera de manière un peu provocatrice. Il faut quand même dire qu'il n'est pas le premier à dire ça. Hein, que c'est quelque chose qui a déjà été pointé par la tradition depuis très longtemps. Il reprend les choses et les réorganise dans le cadre d'une démonstration qui, elle, pour le compte, est absolument nouvelle.
Pour lui, malgré tout, la question est un peu complexe parce qu'il s'agit du peuple juif. C'est une sorte de décalage. D'ailleurs, j'aimerais relire la première phrase qu'on entend aussi après la longue préface que vous lui consacrez, qu'on entend donc de manière singulière. Je lis « Signifier à un peuple que ne relève pas de son identité l'homme qu'il célèbre comme le plus grand de tous ses fils, n'est pas quelque chose qu'on entreprendra de bon cœur ou à la légère, a fortiori, quand on fait soi-même partie du peuple en question. » Il nous faudrait sans doute des heures pour commenter la complexité de cette phrase d'introduction.
Oui.
Mais malgré tout, qu'est-ce qu'on peut déjà en dire ?
Eh bien, Freud a eu pas mal de difficultés à formuler la chose, parce qu'évidemment, le livre commence par ça, et puis, d'une certaine manière, tout le livre est suspendu à ce clou dans lequel il pointe les faits, et d'autre part, sa réaction à ce qu'il a lui-même énoncé. Et il pointe immédiatement, bien sûr, la difficulté qu'il y a à faire ce qu'il va faire longuement, parce qu'il sait très bien qu'il va déroger à une tradition. Et en même temps, il insiste sur le fait qu'il est obligé de le faire. Il ne peut pas, c'est aussi important dans la phrase, hein, je ne peux pas ne pas le faire.
Voilà. Et pourquoi il ne peut pas ne pas ?
Eh bien, il ne peut pas ne pas le faire parce que la maison brûle, parce que les temps historiques sont brûlants, cruels, en particulier pour... ce qu'il appelle justement Das Judentum, qui est une espèce de catégorie très large qui comprend la judéité, mais les juifs eux-mêmes. Et donc, la nécessité, je pense, d'écrire ce livre n'est pas du tout une nécessité théorique, c'est pas un jeu culturel, c'est une nécessité historique et politique. Et il fait la démonstration du courage qui caractérise peut-être aussi la spiritualité juive qui consiste à ne pas redouter le paradoxe.
Mais quand même, Jean-Pierre Lefebvre, à ce moment-là, au moment dont on est en plein essor du nazisme, de la persécution des juifs, Freud a dû s'exiler à Londres, et c'est le moment qu'il choisit pour remettre en cause la généalogie du peuple juif.
Oui. Je pense quand même que son idée de fond par rapport à ce problème, c'est que de toute façon, la généalogie du peuple juif est quelque chose de beaucoup plus large que la simple histoire de Moïse. C'est ça qui est fondamental.
Et donc, au moins, on peut dire qu'il authentifie l'existence même de Moïse.
Voilà, paradoxalement, les outils anthropologiques qu'il déploie ne vont pas jusqu'aux résultats qui sont aujourd'hui largement ceux de l'anthropologie biblique, si je puis dire, qui pense que l'histoire de Moïse est une construction mythique, comme il en existe beaucoup dans la Bible, et en particulier dans cette partie-là de la Bible.
Alors, de quoi s'agit-il ? S'agit-il d'affirmer une distance ? S'agit-il aussi de son athéisme et de son attachement plus à la judéité qu'au judaïsme ? Qu'est-ce qui se joue là ?
Je crois que ce qui se joue ne concerne pas uniquement l'histoire juive, mais ceux qui ont été les protagonistes, voire les antagonistes de cette histoire. Je crois que l'un des éléments les plus forts, les plus paradoxaux du livre, c'est précisément ce qu'il dit des chrétiens, qui sont des gens mal baptisés et qui ont en fait leur antisémitisme, quand il existe, s'explique par ce refus de ce qui est perçu par eux inconsciemment comme une trace juive, enfin une trace juive, une trace de la culture théologique juive dans le discours chrétien lui-même.
Oui.
Et donc...
Il déplace en quelque sorte les sources pour brouiller les pistes, si je puis dire, et éviter cet affrontement parricide du christianisme à l'égard du judaïsme.
Ben, il les déplace en même temps, et je crois qu'il sait assez bien où il va.
Oui.
C'est-à-dire qu'il reprend d'ailleurs là des analyses que Heine avait déjà faites au XIXe siècle qui concernent les chrétiens, puisque Heine avait, comment dire, envisagé le monde chrétien à la lumière de ses pratiques antisémites. Et donc, et il avait pointé ce paradoxe dans l'histoire du christianisme, et l'un des éléments peut-être constitutif de ce qui fédère les antisémitismes européens.
On peut dire un mot aussi de l'écriture de Freud. Vous êtes traducteur, vous venez d'ailleurs en même temps de retraduire la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Mais justement, dites-nous quelque chose un peu sur le style de Freud et sur la forme là assez singulière c'est un roman historique.
Au départ, c'était un roman historique. Il a vraisemblablement hésité à écrire ce qu'il allait écrire autrement que dans une forme un peu teintée de fiction. Et puis, il a abandonné cette forme. Et finalement, c'est un ouvrage un peu informel, en ce sens qu'il est en plusieurs morceaux. Et, ouais. Et dans ce texte apparaissent, comme souvent, à la fois des bouffées poétiques extrêmement productives, des passages très très bien écrits, et puis aussi des passages au contraire plus rugueux, plus difficiles à traduire aussi, qu'il ne faut pas forcément lisser dans la traduction, dont il faut respecter la difficulté. Je crois qu'il est dans la difficulté de la parole.
Oui. On est tenté de dire qu'il passe du roman historique à un roman familial, comme on dit en psychanalyse, hein, où il s'agit de refaire un peu l'histoire de ses parents, ou de déplacer ses géniteurs.
Oui, en même temps, c'est un roman familial qui devrait intéresser les historiens. C'est ça le paradoxe.
Oui, oui, oui.
C'est pour revenir à l'histoire, car l'historicité de la vie de l'être humain est une donnée fondamentale de sa conception du monde.
Freud est un anthropologue, un psychanalyste, un historien. Quel est son statut dans l'écriture de ce livre ?
Je pense que c'est un psychanalyste. D'abord, il a derrière lui cette expérience cette stratégie aussi de l'engagement, quitte à ne pas savoir exactement où l'on va. Ce n'est pas nécessairement l'attitude des autres, mais à l'horizon, bien sûr, de ce travail, il y a aussi un bénéfice anthropologique, à mon sens, considérable.
Que des bénéfices à lire Freud. Merci Jean-Pierre Lefebvre. Je rappelle le titre de ce livre, paru en poche aux éditions Point, L'homme Moïse et la religion monothéiste.
Merci beaucoup François, merci à votre invité Jean-Pierre Lefebvre et à Marc Buffat qui est encore avec nous en studio. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au jeu du comédien. Demain, on quittera les planches pour les salles obscures afin de réfléchir au métier d'acteur, se demander en quoi le jeu de comédien diffère du jeu d'acteur, et ce sera l'occasion de parler de Stanislavski et de l'Actor Studio. Nous serons en compagnie d'Hélène Valmarie. Enfin, grand merci à la comédienne Anne Brissier, la comédienne qui prête sa voix aux comédiens de cette semaine.